La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, schizophrénie politique.
Oui, en Autriche tout d'abord, ils étaient plusieurs milliers hier soir, une bougie à la main, à se tenir debout devant la chancellerie, un long cordon humain lumineux, raconte Le Vif, pour mettre en garde contre l'arrivée a priori imminente de l'extrême droite au gouvernement. Vainqueur des élections organisées le mois dernier, le jeune leader conservateur Sébastien Kurz a en effet décidé d'engager des négociations exclusives avec le parti FPE, dont chacun sait qu'en dépit des efforts de ses cadres pour en polir l'image, il reste régulièrement confronté aux dérapages racistes et antisémites. Or hier, précise Die Presse, le président lui-même a pour la première fois nommément cité deux personnalités issues de l'aile droite de ce parti comme possibles futurs ministres. Et pourquoi s'en priverait-il si certains, à l'image de ceux qui se sont rassemblés hier soir, ne veulent pas du FPE au gouvernement? Les sondages, eux, révèlent qu'une majorité d'Autrichiens est en effet prêt aujourd'hui à donner sa chance à une coalition entre conservateurs et extrême droite. Alors comment en est-on arrivé là? En réalité, ce bouleversement de l'ordre politique n'est plus seulement une question autrichienne, analyse Politico. Le glissement vers l'extrémisme est devenu une tendance européenne et c'est pourquoi désormais elle ne semble plus aussi controversée. C'est ainsi par exemple qu'en Hongrie, on a pu encore récemment entendre le président du Parlement qualifier la démocratie libérale, je cite, de système politique totalitaire. Et puis, en Pologne, là, le développement est encore plus flagrant. Le week-end dernier, à l'occasion de la fête de l'indépendance, l'extrême droite a effectué son plus grand défilé en date. 60 000 manifestants au total, hurlant « Dieu, honneur, patrie » et glorifiant le « White Power ». Ou quand la haine règne dans les rues de Pologne, déclare avec effroi le Télégraphe. Or, comment le gouvernement a-t-il réagi à ce défilé, truffé de slogans antisémites et racistes? Réponse du quotidien d'Enik, le ministre de l'Intérieur a tout simplement fait remarquer joyeusement le beau tableau que les participants avaient donné à voir. Consternant, un cas surprenant, écrit Publico, de schizophrénie politique, d'où l'avertissement lancé cette fois-ci par le journal Gazeta Wyborcza. Il est possible, comme le fait la majorité indifférente, de se prélasser sans prendre position, mais vous tous qui voyez la fascisation de la vie publique sans vouloir vous avouer la vérité, qui l'entendez mais faites la sourde oreille ou qui vous en fichez tout simplement, sachez que vous ne serez pas moins coupable que ceux qui voient, entendent, comprennent et se réjouissent.
Direction Thomas, à présent le Zimbabwe où tous les ingrédients d'un pronunciamento sont désormais réunis.
Oui, après avoir placé la veille le président en résidence surveillée, hier l'armée a donc pris le pouvoir au Zimbabwe et si pour l'instant, écrit Le Pays, le coup d'État ne semble pas formellement consommé, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il prévaut une situation de confusion générale. Seule certitude, la bataille pour la succession de Robert Mugabe est au cœur de cette spectaculaire escalade. De quoi laisser perplexe la très grande majorité des Zimbabwéens qui n'ont jamais connu d'autres leaders que le vieux crocodile au pouvoir depuis près de 40 ans. Et le journal de s'interroger, faut-il plaindre le vieux Bob? En toute logique, renchérit l'observateur Palga, en bonne démocratie, on devrait condamner toute irruption de l'armée dans le jeu politique. Mais étions-nous seulement en bonne démocratie chez Papy Bob? Certainement pas. Voici un monsieur qui, après avoir lutté héroïquement contre le colon britannique, s'est une fois l'indépendance acquise mué petit à petit en despote. Et voilà pourquoi, même si la règle veut que le passage par les urnes soit le seul mode de dévolution du pouvoir, on ne va pas plaindre Robert Mugabe. Voilà où mène la patrimonialisation du pouvoir. Et à tous ceux qui aujourd'hui, à l'image de l'Union africaine, condamne ce coup de force, souvent plus pour le principe que par sincérité. On pose la question suivante. Qu'avez-vous fait pour arrêter les dérives de l'autocrate nonagénaire? Que dites-vous quand il tripatouille les constitutions pour s'éterniser au pouvoir ou lorsqu'il positionne Rejeton, Frangin ou Pépé pour hériter de l'affaire dans la plus pure tradition dynastique? Et le journal d'en conclure, Mugabe n'a eu que ce qu'il mérite. Le Zimbabwe est libéré de Mugabe, titre encore ce matin d'Itaga Zeitung. Alors bien sûr, de nombreuses incertitudes planent toujours, même si les soldats devaient terminer leur manœuvre en consommant courageusement ce putsch, il faut espérer que ce soit l'occasion pour une refondation de la démocratie zimbabwéenne qui n'a jamais existé que de nom.
Et puis enfin Thomas, un nouvel épisode du conflit entre Moscou et Washington lié aux accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine.
Oui, hier les députés russes ont adopté dans l'urgence un amendement pour modifier la loi sur les agents de l'étranger et l'appliquer aux médias. Cette loi, ouvertement calquée sur le modèle américain, comme le rappelle Moskovski Komsomlets, repéré par le Courrier international, oblige toute société représentant un pays de l'étranger à rendre régulièrement des comptes aux autorités du pays qui l'accueille, sous peine de voir ses comptes gelés. Alors jusqu'à présent, elle ne s'appliquait qu'aux ONG, mais désormais les médias étrangers reconnus comme agents devront eux aussi s'enregistrer comme tels. Officiellement, il s'agirait pour le Kremlin d'une mesure de rétorsion pour la sanction administrative infligée par Washington à sa chaîne anglophone, Russia Today. Sauf qu'il ne pourrait s'agir là que d'un prétexte. Un influent sénateur russe a en effet réussi à élargir le champ d'action de la loi en menaçant également des médias nationaux défendant des valeurs démocratiques comme la radio Écho de Moscou, la chaîne câblée Deutsche. De preuve, écrit Le Temps, qu'à travers cette loi, Vladimir Poutine, qui se prépare à être réélu pour un quatrième mandat, poursuit en réalité ses efforts visant au contrôle du paysage médiatique russe. Enfin, s'agissant toujours ce matin, Guillaume, de schizophrénie politique, voilà que le gouvernement espagnol affirme, lui, que la crise catalane aurait été envenimée par le concours de fake news provenant de Russie et du Venezuela. Cette campagne sur la toile aurait, selon Madrid, alimenté une propagande pro-séparatiste. De son côté, le journal suisse Der Bund pointe que le gouvernement espagnol, pour le gouvernement espagnol, l'affaire tombe à pic et lui permet surtout de masquer ses propres manquements. En clair, Madrid va un peu vite en besogne quand elle fait de l'ingérence du Kremlin un important facteur d'escalade, car l'Espagne, dit-il, est la seule responsable de l'émergence de ce conflit.